Merci et bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Mon cerveau est un tas de compost. Mon art est une expression composée, comme une pie qui ramasse tout ce qui brille, comme un scarabée ramasse tout ce qui pue, ainsi naissent mes joies sauvages. Ainsi s'exprime notre invitée, Marlène Dumas, qui est à la fois poète, artiste et peintre, mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et ça sera avec Billie Holiday, Strange Fruit. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marlène. Comment avez-vous passé votre enfance en Afrique du Sud ?
Alors, j'ai grandi en Afrique du Sud. Je suis née dans une ferme, dans un tout petit village, entre la ville du Cap et Stellenbosch. Et donc, pendant mon enfance, voilà comment les choses se sont passées. J'avais deux frères. Et dans ma petite enfance, ce que j'aimais particulièrement, donc avant donc d'être en âge d'être scolarisé, ce que j'aimais faire, c'était être dans la campagne. Vous savez, on me pose souvent les questions sur l'Afrique du Sud dans laquelle j'ai grandi. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai un peu l'impression d'être en séance de psy quand on me pose ces questions. Mais enfin, pour vous dire, par exemple, ce que j'aimais vraiment, c'était dessiner. J'ai toujours aimé cela. Et bon, il y avait évidemment beaucoup d'espace, deux grands espaces. Ça me permettait de jouer à l'extérieur, de grimper aux arbres. Mais ma mère a toujours dit que je ne voulais pas garder le jardin. Aujourd'hui, c'est le cas. J'ai envie de regarder les arbres, le jardin. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et la nature m'attristait, en quelque sorte. Parce que, si vous voulez, quand je vois la nature, aussi belle soit-elle, j'ai le sentiment que je peux pas faire grand-chose. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment utilisé la nature dans le travail que j'ai pu faire. Vous savez, moi j'ai le sentiment que quand on dessine, on entre dans son monde intérieur, on s'éloigne du reste du monde, et dans le même temps, il y a un côté divertissant, je dirais, parce que par exemple, on peut tout à fait dessiner des bandes dessinées ou des choses d'un seul coup de crayon. Ça m'amusait à l'époque. Et si vous voyez, c'est agréable d'être un artiste parce que c'est ce que je pouvais faire à l'époque, ce que je fais. J'allais les croquer, ma famille, mes parents. Je dessinais tout ce qui passait. Et il y avait cela. Et puis, parfois aussi, j'avais besoin de me mettre en retrait du reste du monde.
Et vous avez appris, vous êtes entrée dans une école d'art, Marlène Dumas.
Alors, je me souviens que quand j'étais petite, donc la première fois que j'étais scolarisée, il n'y avait pas du tout d'enseignement artistique. Après ça, j'étais en foyer, j'ai logé dans un foyer, j'allais dans une autre école où était enseigné l'éveil artistique. Mais, si vous voulez, on ne travaillait jamais à partir de choses vivantes. C'était des natures mortes. On nous posait quelque chose en face de nous, une nature morte qu'il fallait reproduire. Jusqu'au jour où on m'a présenté un modèle qui était assis sur une chaise, une personne, donc, et je me suis dit, tiens, ça me plaît, je vais pouvoir faire ça. Et à ce moment-là, il y a le professeur qui est arrivé en disant « Ah non, mais ça, c'est mal fait, t'as pas le bon regard sur ton sujet. » Et ce professeur, avec son exigence, m'a fait progresser. En même temps, j'étais super en colère, j'étais très contrariée et je suis rentrée à la maison en disant à ma mère « Moi, je veux pas étudier quoi que ce soit, les beaux-arts, parce que moi, j'ai pas envie de grandir avec toutes ces règles qu'il faut appliquer. » Ça m'a vraiment contrariée à ce moment-là. Bon, j'ai quand même continué et j'ai dit, bon, voilà, on va voir ce qu'ils attendent de moi. Bon, mais ça, je peux y arriver. Hein. Bon, je simplifie, hein, évidemment, ça ne s'est pas passé aussi simplement que cela. Mais, donc après cela, je suis entrée donc à l'École des Beaux-Arts, à l'université, et j'ai demandé si je pouvais effectivement aller étudier les Beaux-Arts, parce que je dois dire que à l'époque, en Afrique du Sud, c'est pas forcément des choses qui se faisaient. Alors, on m'a dit d'accord, tu peux étudier les Beaux-Arts, mais je me suis dit, j'en ferais peut-être quelque chose de social, genre je ferais de l'art-thérapie, par exemple, par la suite. Bon, mais je me suis rendu compte aussi que ça allait pas forcément se passer comme ça. Au début, je me suis dit, mais ce qu'on me fait faire, c'est vraiment tellement kitsch. C'était du maniérisme, ni plus ni moins. Donc, c'était pas vraiment passionnant. Les choses se sont pas faites aussi facilement que cela pour moi, dans les débuts. Mais au bout d'un moment, aussi, c'est fait.
Ça veut dire quoi? What is the meaning of being an artist? Oh, your definition. You know, that was interesting.
Ah, vous savez, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est la question qu'on nous posait aux Beaux-Arts quand j'étais en Afrique du Sud. On me disait, c'est quoi être artiste pour toi? Et je me souviens que la seule réponse honnête que je pouvais faire à l'époque, c'était la suivante. Je disais, je veux laisser des traces. Je veux vraiment imprimer ma propre marque, en quelque sorte. C'est une manière d'exprimer le fait que j'existe. parce que j'essayais vraiment de trouver quelque chose. Enfin, en fait, je me souviens, d'ailleurs, parce que j'avais écrit ce genre de pensée qui me venait à l'époque, hein, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je m'en souviens aujourd'hui. Vous savez, quand je n'écris pas, j'oublie. Et je me souviens que donc j'avais écrit les choses, et à l'époque, je me disais, l'art, c'est casse-pied, il y a telle et telle chose qui me plaît pas. Et jusqu'au moment où il y a eu ce professeur, qui, à mon avis, était un bon professeur, qui m'a dit, mais tu n'as pas forcément à faire de l'art si tu trouves ça abominable, puisque j'arrêtais pas de dire tout ce qui n'allait pas. Il m'a dit, mais fais autre chose. Tu peux faire autre chose que des arts visuels. Et voilà, aussi autre question, c'est quoi un dessin? C'est quoi une toile? Une peinture? À quoi ça sert? Est-ce que j'exprime mes émotions? Vous savez, tellement de choses qu'on dit tellement souvent, qui sont galvaudées, mais après je réfléchissais, je me disais, est-ce que c'est vrai, toutes ces choses que je dis tout le temps? Et puis, vous savez, avec le recul des années, je me dis que finalement, ma réponse n'était pas forcément si mauvaise que cela, parce que on peut tout avoir, on peut tout à fait avoir des thèmes qui renvoient à toute la sphère sociale dont on peut parler, mais qu'on peut transmettre aussi par la voie artistique. Alors, c'est vrai que parfois les personnalités politiques vont parler de ces sujets. Alors, pourquoi en parler à travers l'art? Question que je n'ai pas forcément encore résolue, que je continue de me poser, mais qui renvoie vraiment à ma fonction. Pour moi, la peinture, c'est un acte vraiment très physique, de l'ordre un peu de la danse. Alors, je ne suis pas contre le fait que certains artistes aient des ateliers ou d'autres produisent pour eux. Personnellement, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser faire aux autres ce que j'ai à faire, parce que moi, c'est un processus vraiment physique qui se déploie chemin faisant, et ça va en fait entraîner la manière dont je vais agir par la suite. Je vais laisser les choses se faire aussi.
C'est la peinture qui décide, c'est pas vous.
Effectivement. C'est-à-dire qu'on doit prendre des décisions, mais exemple tout à fait classique, par exemple, vous prenez cette toile qui s'appelle The Painter, ma fille. Et ce qui a été intéressant ici, c'est que c'était en Afrique du Sud, elle jouait là-bas, et je parlais avec une amie, et elle, pendant ce temps-là, ma fille était en train de dessiner, puis de peindre sur une feuille de papier, et ensuite je me suis retournée, parce que j'avais pas regardé ce qu'elle avait fait, et elle était debout, elle avait peint une croix, en fait, et d'autres choses également, et également une zone pubienne qu'elle avait colorée en bleu, et elle était là, elle était debout, on a pris une photo à ce moment-là de cette scène, et cette image-là que j'ai gardée pendant un certain temps dans mon atelier, elle m'a inspirée au bout d'un moment, je ne l'ai pas utilisée tout de suite, mais tout à coup je me suis dit, mais tiens, il y a une toile, il y a un tableau en fait, dans cette photo. Et puis il y a aussi le titre qui est important. Si vous voulez, ce qui est important pour moi et l'idéal, c'est quand le titre va ajouter quelque chose à l'œuvre, ou s'il est vraiment partie intégrante de l'œuvre, ce titre. Et un soir, je me suis dit, il faut que les choses soient faites très rapidement, comme si on n'avait pas de deuxième passage possible. Hein. Et moi, je n'ai pas tendance à, si vous voulez, à forcément retoucher et retravailler encore. Ça peut m'arriver, mais j'aime aussi les choses qui sont faites d'un seul trait et dans l'urgence. Et je me souviens, par exemple, que j'ai peint. Elle avait, ma fille, je me souviens à l'époque, des espèces de dessins autour du nombril. Hein. Et je l'avais pas aimé, donc j'ai nettoyé à ce moment-là cette petite peinture qu'elle avait faite autour de son nombril. Donc ça a été bleu autour du nombril, et c'est comme ça qu'en fait s'est développée l'histoire de cette toile. Donc pour vous dire, j'utilise quelque chose qui se passe, mais après c'est à moi moi de décider si je laisse les choses en l'état ou pas. Et Bacon disait, par exemple, que quand il travaillait un portrait, eh ben, il allait regarder, par exemple, un dessin d'un lion ou d'autres choses. Et moi, je pouvais tout à fait regarder, par exemple, des insectes. Autre chose, donc. Et en Afrique du Sud, on a tous ces animaux, par exemple, des bestioles. Et je me souviens qu'une fois, le chat avait attrapé une de ces bestioles. Et cette bête, elle est un peu bleutée, une sorte de scarabée. Et quand elle est écrasée, le bleu disparaît. Et donc, j'ai utilisé ce bleuté-là pour vous dire que je ne vais pas forcément utiliser la vie de la ferme directement, mais que indirectement, ces choses-là sont présentes dans ce que je fais. Les choses qui passent, qui évoluent, je sais pas. Bon, je vois que je suis en train d'essayer d'interpréter ce que je fais. En fait, je sais pas vraiment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que au final, quand on fait une toile, on est parfois surpris de se dire, moi souvent je vois mes toiles, je me dis, tiens, il y a pas mal de vert quand même, pour vous dire que tous ces éléments qui m'inspirent sont là, et c'est ce qui va faire que une toile est bonne ou impressionnante, selon le terme que vous préférez employer. Et puis il y a le titre, j'y reviens. Le titre est important. Je me souviens de cette toile qui s'appelait The Noble Savage, le bon sauvage. Je voulais l'appeler comme ça, la toile. Puis après, je me suis dit non. En fait, je vais changer de titre. Hein. Et voilà, le titre aussi doit pouvoir participer de l'œuvre. Et il faut que la toile puisse supporter, je dirais, le titre. Parfois, il y a des titres très impressionnants. Et après, vous voyez la toile et vous dites, oui, bon, est-ce que vraiment le titre est en rapport avec la puissance de l'œuvre ? Pour vous dire qu'au final, c'est la toile qui va dicter ce qui se passe. Et je ne sais jamais parfaitement d'emblée ce qu'elle va être, à quoi elle va ressembler. D'ailleurs, si je savais ce que ça allait donner, je pourrais tout à fait demander à quelqu'un d'autre de la peindre pour moi. Et c'est pour ça que je ne peux pas le faire.
Je vous propose d'écouter un discours de Nelson Mandela au moment où il a prononcé donc ces paroles si importantes pour le pardon. Après l'apartheid, et puis nous allons discuter après de l'importance de votre origine sud-africaine et de savoir si Marlène Dumas vous considérez comme une artiste engagée.
Grâce à la lutte menée par les masses de notre peuple et le soutien de la communauté internationale, nous pouvons dire avec confiance que la victoire est en vue. Mais comme dans un marathon, c'est le dernier kilomètre qui est parfois le plus difficile. Nous avons encore à franchir ce dernier kilomètre et le faire ensemble, de façon à mettre fin à cette tâche honteuse des relations humaines. Et c'est dans ce contexte que nous demandons à la communauté internationale, nos amis en particulier, de maintenir les sanctions.
Vous savez, il y a certains termes que je me garde d'employer dans la mesure du possible. Parce que je pense pas que forcément, si vous voulez, toute intervention visuelle ait une portée politique. J'irai pas jusqu'à dire que je suis engagée politiquement ou que je suis féministe. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être beaucoup plus actifs et militants que moi. Donc, peut-être indirectement, justement parce que je respecte tellement les gens qui font cela avec engagement complet, que j'hésite à dire que je suis moi-même engagée. Je crois que Sartre a dit que les gens qui se battent pour la liberté donnent leur vie alors que les artistes donnent leur vanité. Enfin, c'est quelque chose comme ça, la citation. Pour vous dire que j'ai toujours ce regard un petit peu négatif par rapport à ce que je fais ou à l'art de manière plus générale. Donc, voyez par exemple The White Disease, voyez cette toile que j'ai faite, eh bien je ne l'aurais probablement pas appelée The White Disease, donc le mal blanc, si effectivement il n'y avait pas en moi une certaine conscience de cette difficulté des blancs justement, et si j'étais pas consciente que les gens ont beaucoup souffert. Et en même temps, si vous voulez, il y a la question de savoir visuellement ce que l'on voit. Qui vous dit ce que vous voyez, ce que vous comprenez d'une œuvre? Et ça, c'est une réflexion qui est en cours. Je me souviens, lorsque je suis arrivée aux Pays-Bas et que je fuyais l'apartheid, je me disais, ah, mais les Sud-Africains, les Blancs sont abominables. Et ma mère me disait, je me souviens, une fois que ma génération sera morte, les choses iront beaucoup mieux. Et je dois vous dire que ça m'attriste vraiment beaucoup de constater que c'est loin d'être fini, hein, voir c'est pire avec des poussées réactionnaires dans bien des contextes. Hein. Bon, j'essaie de m'en tenir à votre question, mais j'ai un peu tendance à me perdre parce que je suis très émue. Mais bref, voilà, autre sujet qui m'intéresse, le recours aux euphémismes. Tout ce qui concerne l'apartheid, on n'ose pas forcément nommer les choses. Vous voyez, par exemple, la première fois que j'ai présenté aux États-Unis une toile assez que j'avais faite lorsque j'étais jeune. Vous voyez l'épouse de Lumumba, l'épouse de Malcolm X, d'un certain nombre de personnalités. Et les gens me disaient, ah, vous savez, vous, avec l'Afrique du Sud et l'apartheid, et moi, je leur ai dit, mais vous, les Américains, vous vous rendez même pas compte de ce qui se passe chez vous. Hein. J'ai mis du temps, je dois dire, à dire que j'étais une artiste. Pendant longtemps, j'ai dit que j'étais une étudiante. Et c'est Jean Genet, je crois, qui m'a aidé. Il a dit, mais s'il faut être voleur, alors autant être un bon voleur. Et je me suis dit, après tout, je ne fais que cela, je fais que de l'art, donc j'ai peut-être du mal à assumer en me disant que c'est pas suffisamment bon ce que je fais, mais en même temps, c'est peut-être pas suffisamment bon ce que je fais, mais après tout, c'est ce que je fais. Donc j'ai arrêté de dire que j'étais étudiante et j'ai fini par m'appeler artiste.
Mais pourquoi vous vous excusez, Marlène Dumas, d'être une puissante, immense artiste? C'est parce que vous êtes une femme.
Mais peut-être que c'est parce que souvent les femmes s'excusent beaucoup plus souvent que les hommes. Hein. Non, c'est pas ce que c'est pas le point le plus important. Vous savez, j'ai grandi, j'avais deux frères et notamment un dont j'étais très proche. Et ce frère-là, il m'a toujours très bien traité. Toujours été très gentil. Et la plupart des hommes, d'ailleurs, que j'ai connus dans ma vie, et j'ai eu beaucoup de chance, ont été vraiment très gentils. J'ai pas de grief, hein, j'ai pas de contentieux et ça me pose pas de problème d'être une femme. Peut-être aussi parce que j'ai vu trop souvent des formes d'art qui étaient trop édulcorées ou trop faibles, je dirais, un art de mauvaise qualité. Et c'est peut-être plutôt pour ça que j'avais honte de l'art de manière générale. Et aux beaux-arts, en particulier la peinture, à l'époque, c'était pas terrible. Le théâtre était bon, les écrivains étaient bons en Afrique du Sud. Mais alors, franchement, la peinture en Afrique du Sud, à l'époque, c'était assez consternant, les sujets. Et j'ai compris par la suite que il y avait un contexte politique qui expliquait peut-être les choses. Mais en tout cas, à l'époque, pour moi, la science et le savoir se trouvaient dans les livres. En plus, on n'avait pas de communication avec le reste de l'Afrique. Hein. Mais même, de toute façon, la peinture à l'époque, en Afrique du Sud, c'était vraiment très limité, hein, il faut le dire. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on n'avait pas de Pasolini à l'époque, on n'avait pas ces figures-là, et encore moins des femmes, hein, en ce qui concerne la peinture en Afrique du Sud. Et même chose, d'ailleurs, aux Pays-Bas, hein, quand je suis arrivée au début. C'était peut-être plus ça, donc. Et puis, ça relevait un petit peu du luxe, hein. Vous savez, mon frère me taquinait. On se demandait si je devais aller à l'université, faire les beaux-arts. Et il disait, ah, mais elle a qu'à y aller, faire les beaux-arts. Au pire, elle rencontrera quelqu'un, pourra se marier. Et donc, c'est vrai qu'il y avait des plaisanteries sur les femmes à l'occasion qui étaient faites à la maison. Mais il faut dire quand même qu'au Beaux-Arts, les meilleures, c'était les femmes, hein, les filles. Donc, c'était elles qui persévéraient. Et donc, quand j'écrivais les choses, là, quand je prenais des notes, je disais, bon, les femmes ont peut-être du mal à continuer parce qu'elles ont du mal à accepter la critique. Et là, je m'incluais, moi aussi, hein, de manière assez négative. Mais je me souviens que la première fois que j'ai pris la parole en public, c'était catastrophique. J'avais envie de sortir en pleurant de cette scène. Je me souviens que j'avais été vraiment mauvaise. Et un de mes amis artistes, il est venu vers moi, il m'a dit, mais franchement, t'as été super mauvaise, Marlène. Plus jamais tu ne seras invitée à parler en public. Et après, je me suis dit, je peux bien y arriver, pourquoi pas. Et puis aussi, lorsque j'ai commencé à enseigner, j'ai dit aux étudiants, vous n'avez pas besoin de parler comme un tel ou comme machin ou comme un autre. Il faut trouver votre manière de prendre la parole. Alors, en ce qui me concerne, j'y mets l'humour, quitte à faire limite du stand-up, forme un petit peu humoristique. Mais c'est ma façon à moi de prendre les choses. Avec, par moment, le sérieux qui est présent, une présence physique aussi. Je me rends compte que lorsque je dois rester immobile, j'ai du mal à penser. Alors que si je peux avoir des gestes, eh ben, ça va me permettre d'expliquer mieux l'art, d'autant qu'il est visuel. Donc parfois, qui dit visuel dit qu'on a besoin de montrer avec les mains ce qu'on a à expliquer. Et donc lire, pourquoi pas lire les choses, mais si moi au contraire j'ai des supports visuels, j'explique mieux les choses. Alors bon, j'ai plaisanté sur le fait que j'étais une femme à l'occasion, mais en fait c'était pas un vrai sujet. C'est pas un sujet particulier pour moi. J'ai pas de complexe d'infériorité parce que je suis une femme, mais je reconnais que c'est à nuancer. Les jeunes étudiants m'ont dit, mais vous êtes aussi la seule à avoir une carrière solo en Afrique du Sud, et c'est vrai que j'ai été surprise. Je voyais que souvent c'était des expositions collectives, et moi, je dois dire qu'au fil de ma carrière, j'ai été assez surprise que parfois on me disait « Ah, mais c'est chouette que vous soyez là, vous êtes la première artiste à être présentée. » Et bon, c'est vrai.
Que représente Picasso pour vous, Marlène ?
Andorra Martu.
It is interesting in this exhibition.
C'est intéressant. Dans cette exposition, il y a effectivement Dora Maar et également Meret Oppenheimer avec le titre Missing Picasso. Effectivement, les gens ont un petit peu tendance à être perdus en disant mais c'est Merit Oppenheim ou c'est Dora Maar. Les gens sont un peu perdus dans l'exposition. Mais bon, maintenant, vous savez, on peut tout chercher sur Google. Et je reviendrai à Dora Maar dans un instant, mais je reviens sur Merit Oppenheim. Je connaissais des photos d'elle, mais je m'étais pas rendu compte qu'elle était tellement jeune. En fait, Et je reviendrai à Picasso dans quelques instants, son rapport avec les artistes, mais enfin, Picasso et Matisse, c'était toujours un petit peu le binôme pour savoir qui était le meilleur. Et moi, j'étais peut-être plus fan de Picasso, je dirais, à ce moment-là. Meret peut-être plus fan de Matisse. Alors après, il y a ce qu'ils ont fait avec leurs femmes, c'est un autre sujet. Mais ce que j'ai quand même toujours beaucoup aimé avec Picasso, c'est que même s'il n'a pas très bien traité ses femmes, et bon, à nuancer, parce que après tout, elle savait où elle mettait les pieds, et elles l'ont cherché, cet homme-là, elle aussi. Mais je dirais quand même, le type, le nombre de femmes différentes qu'il a dessinées et peintes, elles sont très différentes et c'est magnifique parce qu'il y a cette douceur parfois et d'autres émotions comme la violence. Alors Picasso, le peintre, et quand il a fait son autoportrait aussi sur la fin, avec cette femme nue qui est très forte, et lui il apparaît comme une sorte de singe qui lutte, qui est aux prises avec cette femme. Pour vous dire que moi j'ai une certaine sympathie pour lui, pour Picasso, il a fait des dessins admirables. Et puis ces dessins de femmes qu'il a fait sont des choses que je trouve très belles. Et de ce point de vue, je continue de penser que, par exemple, la manière dont il a peint les baisers et les pleurs de Dora Maar aussi, c'est des choses très puissantes. Alors après, je suis désolée que toutes ces femmes-là aient souffert, et je regrette que ce n'ait pas forcément été peint aussi bien ou dessiné aussi bien que par des femmes que par lui. Mais enfin, il faut bien reconnaître que c'est lui le maître de tout cela. Donc, j'ai toujours admiré ça chez Picasso. Et puis, je me souviens que quand je regardais les livres d'art, je me disais parfois, bon, c'est un petit peu trop doux. Mais quand j'ai vu les œuvres de Picasso en vrai, je me suis dit, mais c'est... Quelle couleur, c'est magnifique. Donc, je veux pas forcément défendre nécessairement les hommes, c'est-à-dire qu'il y a des artistes femmes qui s'inscrivent en faux contre les maîtres plus classiques. Elles disent qu'elles peuvent faire mieux les choses et qu'elles vont pouvoir remanier et avoir une relecture, mais ça ne suffit pas. Quand même, bon, c'est un sujet, un vaste sujet. Mais je veux dire que je continue à être aux prises avec tout cela, c'est-à-dire que quand on écrit un livre, c'est une chose. Si on s'en tige pour un mauvais Proust, pourquoi pas? C'est une question de langage et de langue qui est en jeu. Et donc, ces artistes-là, en ce qui concerne cette fois-ci la peinture, mais quand même, ils étaient excellents, même s'ils sont sulfureux, catastrophiques par ailleurs, pour un certain nombre de choses qu'ils ont faites par ailleurs. Mais moi, je défends Picasso en tant que peintre. Et Dora Maar, bon, ben, oui. Je suis aussi intéressée par la femme. Bon, je n'ai pas peint Freud, mais bon, c'est pas dans l'exposition. Mais il se trouve que j'ai quand même peint sa femme, la femme de Freud. Et je me dis, y a de l'humour quand même dans mon œuvre que les gens ne saisissent pas forcément. L'humour, c'est subversif, hein. On le sait. Pour vous dire qu'en fait, j'ai trouvé une photo d'elle, de la femme de Freud, donc dans un magazine. Et parfois, vous savez, les lectures, ça peut être des choses très bêtes, très simplettes. Et pourtant, et là, je me suis dit, Freud avec toutes ses histoires sexuelles. Alors attention, je vois sa femme, elle a pas l'air simple, la dame. Hein. Donc, je peux imaginer que la relation ait été difficile.
Et,
bon, j'ai aussi fait d'autres gens qui sont moins célèbres. Alors souvent, on parle des portraits que je fais de personnes qui sont connues. Et parfois, je regrette presque d'avoir fait ces portraits parce que pendant longtemps, mon intention n'était pas du tout, si vous voulez, de dire, voilà, la pauvre femme qui est derrière l'homme. Mais il n'empêche que, au final, on peut pas tout faire à la fois et il y a ces choses que je n'ai pas encore faites et que je ferai. Pour vous dire en tout cas que j'aime les gens. Et est-ce qu'on peut, pourquoi pas non plus, peindre un groupe? Et non. Je me suis dit, bah, il y a des femmes qui sont magnifiques. Effectivement, vous pensez Dora Maar, Merit Oppenheim. Je suis aussi d'ailleurs fascinée par ces femmes-là, moi.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Marlène Dumas. Eh bien, ça sera Broken English par Marianne Faithfull. We'll be right back. pourquoi vous aimez la nuit, Marlène?
But also that.
Ben vous voyez.
Also that Baudelaire says something wonderful about the night.
Je crois que Baudelaire a dit quelque chose de magnifique sur le sujet. Il dit enfin, je suis seul, la tyrannie du visage humain a disparu parce que c'est la nuit. Et c'est quelque chose que je me dis aussi souvent. D'un côté, les gens sont ma source d'inspiration, mais ils sont aussi mon fardeau. Ils sont le sujet que j'étudie, mais je ne peux pas peindre en leur présence. Il faut que je sois seule. Lorsque je suis en présence de personnes, j'ai tendance à trop parler, mais quand je travaille, j'ai besoin qu'ils ne soient pas là. C'est un peu injuste, mais je pense à Lucian Freud, par exemple, qui était là, et ces gens qui doivent poser pendant des heures et qui n'arrivent pas à finir son œuvre. Cet aspect-là, moi aussi, me pose problème. Et puis, ce n'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je veux, c'est être seul avec le sujet que je suis en train de travailler, avec tout ce qui me traverse l'esprit. Et la nuit, c'est l'idéal. Je me souviens lorsqu'elle est née, alors. Oui, c'est ça.
Avec qui vous peignez?
Oui, et puis il y avait cet artiste qui était là, c'était un ami, il avait son fils qui était là et qui m'a parlé de l'inspiration artistique. Il me disait, c'était intéressant, il me disait, les choses sont souvent des habitudes, relèvent des habitudes, et quand on a un autre enfant, on est dans l'habitude. Et une autre amie de sexe féminin, donc, elle a dit, quand on commence à avoir des enfants, on perd plus son temps avec plein de gens qui ne nous intéressent pas. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'il faut s'occuper des enfants. Enfin, je reviens au fait de travailler la nuit. La nuit, c'est une période qui va permettre d'être concentré dans la durée, et il y a du calme. Alors, c'est pas forcément la nuit, mais il se trouve que c'est la nuit que les gens dorment, donc il y a ce calme et cette possibilité de travailler. Quand mon mari, quand mon chien travaille, je sais plus quel artiste a dit ça, donc je vais pas m'avancer, mais enfin bref, je comprends ça moi aussi. Quand on travaille, quand on entre dans ce qu'on est en train de faire, il va y avoir un moment où on est épuisé, on se dit « j'arrive plus à réfléchir, je suis trop fatigué ». Et si on s'arrête à ce moment-là, c'est un peu comme les gens qui sont beurrés, vous savez. Vous dites, ah là, j'ai un espèce d'éclair de génie, je suis brillant, et puis moi, le lendemain matin, c'est la gueule de bois, et c'est une autre affaire. Là, c'est un peu pareil, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous passez ce cap de fatigue pendant la nuit, eh bien, derrière, il va se passer quelque chose. La peinture, où à chaque fois qu'en fait on recherche quelque chose qu'on n'a jamais vu, jamais vraiment compris, il faut un petit peu se débarrasser du soi, de soi-même. Donc c'est un mélange un peu surprenant, parce qu'à la fois il faut être en pleine maîtrise et lâcher prise. Et la nuit est peut-être le meilleur moment, à mon avis, pour obtenir cela.
Pourquoi, Marlène, vous peignez au sol?
Oh yeah, yeah. Again, because of this. Quoting other people,
j'ai un peu tendance à citer les autres. Peut-être Jean Moreau, je ne sais plus, quelqu'un m'a dit. Et puis d'autres l'auront dit d'une différente manière, peu importe. Mais en tout cas, lorsqu'on est, on travaille en talons aiguilles, on a un port différent, on se comporte différemment. Mais c'est la même chose pour la peinture. Et encore que, bien sûr, je suis incapable de peindre en talons aiguilles, mais quand on s'assoit, on aura des gestes différents. Alors que si on est debout, on va utiliser d'autres parties de son corps. Et ça, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, là, j'ai un peu mal aux genoux. Parfois, c'est dur de se relever. Alors, vous me pardonnerez, je vous montre pas. Mais en tout cas, on peut effectivement s'adapter. On va utiliser différents pinceaux. Et ce que je fais aussi parfois, très tard, hein, le soir, je vais laisser sécher. Et quand je dis laisser sécher, c'est que je vais utiliser de la térébenthine, beaucoup de térébenthine. Et ça va permettre de déplacer la toile. Et là, on va être surpris. Parce que elle continue de couler la toile. Si vous la redressez contre le mur, ça va couler. Puisque j'utilise beaucoup de térébenthine, alors on va à ce moment-là, ça veut dire quoi ? On laisse en fait les matériaux employés faire leur œuvre, faire des choses. Donc tout est lié à la manière dont on traite physiquement la toile. Et puis aussi, c'est important de voir la toile en vrai, parce que je n'ai pas les mêmes règles forcément pour tout ce que je fais.
Je suis très émue quand je vois vos tableaux, Marlène. Je ne suis pas la seule. Il y a une grande, grande émotion qui me submerge. Et en même temps, je peux discuter avec vos tableaux. Est-ce que cette émotion, vous la revendiquez? Et le fait que la peinture, votre peinture n'est pas figée?
Alors, d'un côté, j'aimerais bien qu'une toile soit très primitive, dans le bon sens du mot. Vous savez, ça renvoie à la peinture, par exemple, dans les grottes ou dans les cavernes, toute cette partie primitive qui renvoie à des émotions primitives, attraction, peur, rejet, enfin toutes ces émotions assez primitives. Et la peur joue un rôle important. Lorsque j'ai peur, par exemple, de mon sujet, du sujet que je vais traiter, quand je vais me dire, est-ce que je peux utiliser telle ou telle chose ? Mais en même temps, il y a une certaine distanciation qui se fait et qui est importante pour moi. Alors, pas simplement une distanciation au plan des émotions, mais si vous voyez, c'est le côté un petit peu vaudou de la chose, se mettre en retrait des choses qui me renvoient à des formes d'art assez antiques et anciennes. J'y pense pas forcément avant de faire. Mais voyez, par exemple, ces silhouettes-là, élancées, assez élongées, eh bien, j'y pense dans l'après-coup. Et je me dis, pourquoi est-ce que je l'ai fait? Bah, pas forcément parce que je vais utiliser, si vous voulez, je vais pas forcément utiliser toutes les références que j'ai en tête, mais je pense à certaines cultures africaines où on a cette forme allongée ou élongée qu'on va retrouver dans une peinture rupestre. Pour vous dire que parfois je ne sais pas forcément ce que ça signifie, ce que je fais, ce que j'utilise. Je ne me dis pas, je vais utiliser ça pour que ça signifie telle ou telle chose. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, j'aurais d'autres exemples, mais qui ne sont pas présentés ici dans cette exposition. Mais je me souviens, Elena, ma fille, bon, à l'époque, elle avait beaucoup de petits copains qui avaient tendance à se succéder assez rapidement. Et vous voyez, dans cette toile que je vous montre, ça exprime ça. C'est une toile que j'avais peinte une nuit où j'avais utilisé ce mouvement-là dans cette toile à cause de cette émotion. Et ce mouvement, je voulais presque physiquement vous amener à ressentir l'émotion que je vivais. C'est peut-être, ça semble un petit peu grandiloquent, mais ça veut dire, c'est pas forcément que vous ayez à comprendre les choses intellectuellement. J'ai envie que vous puissiez les ressentir dans mon œuvre. Parfois ça marche sur ce niveau et c'est bien, mais aussi je veux aussi, si vous voulez, comme certains films que j'affectionne particulièrement, différentes couches qui sont la couche affective, émotionnelle et puis la couche politique aussi. Et c'est ce que j'ai recherché quand j'ai fait mes études. Je ne savais pas comment faire de l'art concrètement, mais je me disais, une bonne œuvre d'art, elle doit avoir ces différentes couches-là. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ce que j'espère, c'est produire quelque chose qui va vous bouleverser. Parfois, les œuvres, elles sont peut-être un petit peu trop théoriques, c'est vrai. Et quand elles sont trop théoriques, on perd cette dimension-là affective. Donc, j'espère que mon travail permet d'obtenir ces émotions-là. Ce n'est pas forcément toujours réussi.
Thank you so much.
Yeah. Merci.
Thank you.
Les jours passent et se répètent. J'aimerais bien que ça s'arrête. J'ai besoin de faire la fête. J'ai trop d'onglets dans la fenêtre.
C'est avec Jacques que nous nous quittons ce soir. Merci encore Hélène Joguet-Lejean pour votre traduction simultanée. Merci encore Marlène Dumas. Je rappelle que votre exposition monographique est intitulée Open End et qu'elle se tient à Venise au Palazzo Grazzi jusqu'au 8 janvier prochain. Merci à Clément Vuillet qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer et Marie-Clément. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et bien sûr, merci encore à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka pour la suite et la reprise de son Very Good Trip.